6h04, nous sommes mardi 20 octobre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. C'est une journée de pluie. D'ailleurs, la pluie est tombée toute la nuit. Hier aussi, pas mal toute la journée. Mais là, c'est intense ce matin, alternance de soleil et de nuages. On devrait recevoir de 5 à 10 mm. La bonne nouvelle, c'est qu'en après-midi, on aura donc un peu plus de luminosité, moins de temps gris. Et ça demeure partiellement nuageux, toute la soirée également, avec un minimum de 4 pour la nuit. Mais demain, mercredi, c'est une autre journée de pluie, de 15 à 25 mm. Il va pleuvoir toute la journée, toute la soirée, avec des vents jusqu'à 50 km/h. Finalement, le retour du soleil est prévu pour jeudi et 14 degrés. Des détails concernant la STM ce matin, je vous le disais, le problème informatique depuis hier. Selon ce qu'on sait, certaines informations nous laissent entendre que c'est un virus qui aurait donc frappé les serveurs de la STM, peut-être même qu'ils ont été piratés. Le site web ne fonctionne pas et ça pourrait avoir un effet négatif là, pour ce qui est du transport adapté. Les centres de services, garages, donc la gestion informatique, évidemment, ne fonctionne pas. Ce qui fait que pour l'instant, on nous dit que les sorties régulières des autobus se font quand même. Il n'y aurait pas de retard, mais on va suivre ça de près. Puis on aura aussi un peu plus tard peut-être la version de la Société de transport de Montréal. Disons que ce n'est pas un matin là, pour que les autobus ne respectent pas l'horaire, là, mais ce qu'on me dit, en tout cas, ça semble pour l'instant bien fonctionner. Alors, COVID. Le cas du Québec est assez particulier. D'abord, Radio-Canada hier a fait une compilation de la gestion des chiffres, des cas. Et premier constat qu'on fait, là, globalement, c'est que quand la deuxième vague a commencé, ça touchait beaucoup de jeunes. Là, on s'aperçoit qu'il commence à y avoir aussi beaucoup de gens âgés qui sont touchés. Et on le voit par les éclosions dans des résidences, des CHSLD. Alors, il y a comme un retour. C'est pas au même niveau qu'au printemps, mais quand même. Donc, des gens plus âgés, ça veut dire aussi un potentiel plus grand qui se retrouve à l'hôpital. Sérieusement, moi, je n'arrive pas à comprendre qu'au Québec, et je me mets à la place du ministre, je ne serais pas de bonne humeur, là, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de fournir des données précises? Alors, je comprends que le mammouth fonctionne avec des fax, là, mais ça ne se peut pas qu'on découvre 30 cas, puis que là, oups, il y en a 25, puis ça n'a pas été signalé aux autorités. Là, il est supposé y avoir un gestionnaire par établissement. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de le savoir? Puis, en même temps, les autres résidences sont sous la supervision, la responsabilité des fameux CIS et CIUS. Alors ça, c'est un assez grand mystère. Deuxièmement, là, on va gérer le sport. Puis on voit qu'en termes, supposément, de cas, là, ça demeure assez stable. Il n'y a pas de nouvelles flambées. C'est élevé, mais stable. Et est-ce qu'on va permettre, par exemple, surtout, je pense, à la fin octobre, début novembre, là, le retour à certaines activités sportives? Je vous le jure, là, le nombre de parents qui m'envoient des messages en disant « si vous pouvez parler au gouvernement, là, ils ne comprennent pas jusqu'à quel point c'est important pour des enfants, puis du plus jeune à l'adolescent. » Et ce n'est pas juste le motif de poursuivre des études, c'est aussi le besoin de bouger et le besoin, avec des restrictions, on peut évidemment comprendre, mais s'il y a quelque chose à faire, là, à mon point de vue, c'est vraiment ça. Permettre aux gens de retrouver une activité. Même phénomène pour les gyms. Et ce n'est pas de l'égoïsme de penser ça. L'activité physique, s'il y a quelque chose de positif, et surtout qu'on entre, je reprends les propos de Régis Labeaume hier, dans la période de la noirceur, avec le changement d'heure, là, à un moment donné, tu as besoin de ça. Entre-temps, aux États-Unis, on est dans le délire complet. Le président Trump, qui s'attaque à son principal conseiller en santé publique, il traite les experts d'idiots. Il dit que Dr. Fauci est un désastre, qui est là depuis 500 ans, puis que si on l'avait écouté, il y aurait encore plus de morts, puis l'économie serait par terre. Tu dis à quelle heure le congédiement? Ça semble pas être le cas. Il y a un autre conseiller qui, lui, est pas connu. C'est un médecin. Mais il est pas connu comme étant quelqu'un qui a une spécialité dans les maladies infectieuses. Le docteur Atlas, qui a émis un message en disant que les masques n'étaient pas nécessaires. Puis là, oups, il a retiré ça vite devant la controverse. Alors, si vous êtes aux États-Unis, vous regardez ça, t'as un expert qui dit, dans une entrevue dimanche soir, à 60 Minutes, que c'est tout à fait normal que le président ait eu le virus, la maladie. Il prend pas de mesures de distanciation, il porte pas de masque, il fait des rassemblements, bien, il est arrivé ce qui devait arriver. Et là, le président haït ça, puis il décide de se venger, puis de contre-attaquer. Fait qu'on est dans ça, là. Puis la campagne présidentielle, il reste 2 semaines, voyez le ton. On se traite de bandits. Biden répond que ça n'a pas de sens, que ce que Trump est en train de raconter. Puis c'est toujours un peu le même discours qui promène d'état en état. Je rappelle le débat jeudi. Et ça va être intéressant de voir la gestion, là, parce qu'on ferme le micro de l'autre pendant qu'un des candidats prend la parole pour éviter le cafouillage et la cacophonie. Les infirmières, bon, et autres professionnels, là, ont manifesté sur les ponts de Québec et Jacques-Cartier hier, fin d'avant-midi, évidemment pour attirer l'attention sur leurs négociations qui n'avancent pas pour le renouvellement de la convention collective. Il y a tous les enjeux là, que l'on connaît, les enjeux évidemment d'horaire, de temps supplémentaire, rémunération, tout ça. Là. Puis on a une pénurie d'infirmières au Québec. Alors, tu as un employeur qui s'appelle l'État qui dit « j'ai besoin des infirmières », puis des infirmières qui disent « ben donnez-nous des conditions de travail qui ont de l'allure, puis peut-être que finalement les gens vont venir. » Je ne veux pas me mêler de la négociation. La seule affaire que je me dis, et je sais que les infirmières en général ont un énorme capital de sympathie. Mais des événements comme hier, ça vient effriter le capital de sympathie. C'est sûr que vous allez me dire, ouais, mais là, c'est juste un certain temps. Hier, ça a eu des impacts pour bien des gens qui ont dû attendre, poireauter, puis s'ajouter une heure à leur trajet habituel. Puis, je veux revenir sur les propos de Régine Laurent, qui était présidente de la FIC. Quand elle a quitté, dans une entrevue qu'elle a accordée, c'était au mois de novembre 2017, donc ça fait pratiquement 3 ans, elle dit, les syndicats du secteur public doivent changer. Ils ne peuvent plus recourir à des moyens de pression lourds qui dérangent toute la population. Et elle ajoute que les gens travaillent plus, ils arrivent plus difficilement, ils passent 1h30 dans l'auto le matin, 2h l'après-midi. Alors, et je la cite, on ne peut pas faire des actions qui vont déranger cette population. Elle va même jusqu'à dire que la grève est un moyen de pression dépassé. Mais peut-être pas tout à fait dépassé, mais c'est sûr qu'il faut tout faire pour pas en arriver là. Alors, je vous dis pas que la sympathie vient de basculer. Je dis juste que on peut comprendre la frustration, on peut comprendre. Mais quand vous faites ça, vous écœurez pas le gouvernement, là. Ça dérange pas pantoute la machine du Conseil du Trésor. Ça n'a pas véritablement d'effet. Ça dérange, par contre, bien des gens qui étaient en déplacement hier. Dossier de l'UPAC. 2 anciens policiers ont déposé des poursuites contre le gouvernement du Québec. Stéphane Bonhomme et Richard Despatie. Des requêtes, donc, en cour supérieure. J'ai pris connaissance de ça hier. Essentiellement, les 2 policiers accusent l'UPAC d'avoir détruit leur réputation sur des faussetés, sur des mensonges, sur de la manipulation. Je vais parler à Richard Despatie tantôt. C'est un ancien haut gradé de la Sûreté du Québec qui avait pris sa retraite et qui œuvrait toujours dans différents domaines. On avait même retenu son nom pour le Bureau d'enquête indépendante. C'est un gars qui a travaillé à la SQ aux affaires internes pendant un temps. Il était sur des opérations. Quelqu'un qui avait une réputation solide. Dans le cas qui nous intéresse, on l'a soupçonné d'organiser des fuites et également d'avoir eu des contacts avec Guy Ouellet. D'ailleurs, c'est lui, en fait, pas lui directement, c'est qu'on lui a pris dans une perquisition son téléphone et il y a quelqu'un à l'UPAC qui s'est servi de son téléphone pour attirer Guy Ouellet dans le piège qu'on connaît. En résumé, là, faire ça bien clair, là, Ouellet poursuit le gouvernement parce qu'ils n'ont rien tenu contre lui. Toutes les accusations sont tombées. C'est une opération bidon menée contre Guy Ouellet. Despatie, on n'a rien contre lui. Et on verra plus tard, si on finit par aboutir dans les enquêtes, de quelle façon les sources des journalistes ont été alimentés. Et par qui? Le fameux projet Serment, là, qu'on tente de savoir si un jour ça va finir par se terminer. Alors, Despatie dit, vous avez ruiné ma vie, ma réputation, celle de ma conjointe. Et au total, donc, avec Bonhomme réclame 2,6 millions. C'est une autre tâche dans le dossier de l'univers policier au Québec. Je pourrais ajouter Richard Deschênes, l'ancien directeur, qui poirote parce qu'on décide toujours d'aller en appel puis on fait traîner les procédures dans son cas. On le voit là, puis je ne reviendrai pas sur le dossier de Martin Prudhomme, mais il y a quelque chose vraiment de vicié au sein de la police. Ce n'est pas juste un petit livre vert puis une consultation qui va amener des changements. Écoutez, là, on parle de gens dont on a détruit la réputation, là. Vous savez? Ils n'ont rien à voir avec les fuites. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a rien qui les ramène à ça. Autant Ouellet que Despatie. Alors, c'est ceux qui surveillent d'abord puis qui décident de poursuivre. On poursuit avec le dossier de l'Université d'Ottawa. Je regardais ça aller hier, là. Disons, le ton monte et les insultes se multiplient sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est le stress relié à la pandémie, mais depuis quelque temps, puis je ne suis pas le seul à le voir, là, disons que c'est impossible pratiquement d'avoir des échanges civilisés. Je vois passer des messages qui sont des insultes, genre soi. Tu dis, écoute, tu as le droit de ne pas être d'accord, là. Mais il me semble qu'il y a des limites. Donc, revenons au cas de l'Université d'Ottawa. On connaît l'histoire. Une enseignante qui utilise le mot « haine ». Et là, les gens disent, mais pourquoi tu ne le dis pas? Mais je ne suis pas dans un contexte, ici, ce matin, pour... Je suis en train de donner un cours. Un. Deux, je ne l'utilise pas, vous me criez des bêtises. Je l'utilise, on me crie des bêtises. Fait qu'on se comprend-tu que ça va être ça? Et alors, donc, l'enseignante crée un scandale parce qu'elle l'utilise à des fins pédagogiques, des fins de discussion, placer ça dans un contexte historique. Depuis ce temps, on l'a tassé, là, elle est revenue. Mais partout, on la présente comme étant une raciste finie. Et le recteur Frémont, du haut de sa tour, lui a décrété que quand tu fais partie de la majorité, tu n'es pas en mesure de savoir l'impact que ça a sur ceux et celles qui sont visés dans la minorité. Donc, le recteur a décidé de ne pas soutenir le prof. Et l'université a même offert aux étudiants et étudiantes qui auraient été mal à l'aise de poursuivre, ben, de changer de prof. Hier matin, je vous parlais de ces 34 profs de l'Université d'Ottawa qui ont décidé de soutenir des gens de la faculté d'art et lettres, principalement. Ce matin, dans Le Devoir, on nous dit qu'il y a plus de 500 professeurs qui signent une lettre en soutien à une collègue de l'Université d'Ottawa. Puis là, tout le monde y va de ses commentaires. Et hier, je recevais des commentaires d'auditoires de la communauté noire qui étaient outrés, qui disaient que ça n'a pas de bon sens puis qu'on n'a pas utilisé le mot. Puis ça serait quoi votre réaction si on servait du mot « frog » ? Moi, je n'ai pas de problème à discuter. Je n'ai pas de problème et je vois des réactions comme plusieurs personnes, même la communauté noire, qui disent que ce n'est pas utilisé dans le cadre d'une expression ou dans le cadre d'une, comment dirais-je, d'une attaque contre une personne. C'est important de regarder les contextes historiques. Pourquoi on disait ça? Pourquoi le mot est employé? Mais là, c'est rendu que dès que tu prononces certains mots tabous, on grimpe dans les rideaux. Et non seulement on grimpe, mais on publie des noms sur le web, des adresses, des numéros de téléphone. Puis ces gens-là, je vois dans le texte d'Isabelle Haché ce matin, ben, elle reçoit des menaces, elle ne répond pas au téléphone, puis elle a peur, puis on peut la comprendre, là. Alors vous avez des fascistes qui décident de répondre par de l'intimidation. C'est quand même pas pire, des gens qui veulent avoir et qui prétendent avoir des valeurs, de grandes valeurs, sont les premiers à se servir de l'inquisition sur les réseaux sociaux. Et je ne ferai pas un parallèle douteux, mais quand vous regardez ce qui se passe en France actuellement, ça a été ça aussi avec le professeur et les caricatures du prophète qui dérange tant. Il est arrivé quoi, vous pensez? Tu sais... Ben, on s'est servi des réseaux sociaux, on a mis ça dans la machine, un parent outré, scandalisé. l'imam a relayé ça sur Facebook. Puis là, vous avez ce jeune homme originaire de la Tchétchénie qui est parti et qui a tenté de trouver le prof et l'endroit. Ça a amené à ce geste d'horreur, alors que ce professeur a été décapité. Entre-temps, les opérations contre des militants islamistes se poursuivent. Encore là, on n'attaque pas tous les musulmans quand on parle de ça. On parle des radicaux, on parle de fanatiques, on parle de certains prédicateurs, puis on en a à Montréal, là. Des prédicateurs qui ont ce discours assez, je dirais, balancé pour être sur la frontière, pour pas tomber dans l'illégalité. Alors donc, plusieurs militants, notamment aussi des étudiants qui ont été arrêtés, ce qu'on appelle la garde à vue, donc pour justement la poursuite de l'enquête. Est-ce que d'autres personnes impliquées dans cette histoire-là? Rapidement, dans les autres nouvelles, il y a Marie-Pierre Morin qui a brisé le silence hier. Court message, depuis ses accusations d'inconduite sexuelle et de racisme. Alors, en gros, je pense qu'il faut décoder que c'est une prise de contact pour dire aux gens « j'ai tout perdu ». Et je tente de reprendre ma vie en main. C'est une forme de thérapie, j'imagine. Elle dit qu'elle est déçue que des personnes... en fait, elle est déçue d'avoir déçu des personnes. Ce qu'elle regrette, dit-elle, profondément. Et qu'elle souhaite reprendre ses activités professionnelles de façon graduelle et à mieux gérer sa personnalité excessive qui s'exprime toujours dans sa vie. Alors, ça fait pas mal le tour et on viendra aussi tantôt sur la fameuse consigne qui va entrer en vigueur au Québec, là, et il y a une commission parlementaire. L'industrie prétend que les consommateurs vont absorber 300 millions pour les contenants de plastique, de métal, de verre, et le gouvernement dit que c'est pas vrai. On va avoir une belle discussion tantôt, 6h22. Allons-y avec l'autoroute 20.